On a commencé ou recommencé à parler beaucoup plus d'éducation ces derniers jours. De nouvelles annonces aujourd'hui considérant les plans du ministre de l'Éducation et du gouvernement de la CAQ par rapport à une rentrée scolaire à l'automne qui se ferait physiquement à temps plein ou à temps partiel, autant dans les écoles primaires que secondaires. Il y a beaucoup d'observateurs également qui vont de suggestions. C'est le cas de notre prochain invité, les députés libéraux de la circonscription de Saint-Laurent et critique en matière d'éducation dans l'opposition libérale, Mme Marois Risky. Mme Risky, bonsoir.
Bonsoir, vous allez bien?
Oui, très bien, vous-même?
Oui, très bien, merci.
Oui, comment vous réagissez à l'annonce du plan qui fait en sorte qu'on veut avoir les élèves en classe en septembre, tant au primaire qu'au secondaire, à temps plein ou partiel?
Nous, on n'a pas encore reçu de façon officielle le plan. On parle demain, M. Roberge, mais il nous a fait suivre un document par rapport à une présence, oui, en présentiel pour certains élèves, mais d'autre part, qu'il y aurait encore de la formation à la maison. Et pour ça, nous, c'est hyper important que le ministre entende notre suggestion. On lui a proposé que même pour les groupes d'élèves qui feraient la formation à distance, c'est-à-dire en ligne, mais que pour eux, on prévoit un autre local qui permettrait à regrouper tous ces élèves, disons par exemple une quinzaine d'élèves, tant du primaire ou du secondaire, dans leurs groupes respectifs, puis qu'eux seraient dans ce local, avec, par exemple, si on manque d'enseignants, puis on sait déjà qu'on va en manquer, d'aller chercher les étudiants du baccalauréat en éducation et adaptation scolaire. Il y en a plus de 18 000, mais dans ceux qui sont en troisième année et quatrième année de leur parcours universitaire, ils ont des stages à faire lors de leur cursus universitaire. Alors, pourquoi qu'on laisserait les enfants encore à la maison en automne? Les parents, là, qui sont au travail ou en télétravail, c'est presque impossible pour eux de jouer à l'enseignant en même temps qu'ils travaillent, là. Alors, c'est pour ça que pour nous, là-dessus, on espère que demain, le ministre va comprendre l'importance de sortir les jeunes de la maison et d'avoir une présence quelque part, que ce soit à l'école ou par exemple dans un local de la ville. Ça peut être par exemple, on peut penser aux plateaux sportifs, on peut penser aux différentes, on peut même réquisitionner certains lieux. On sait que les hôtels n'ont plus de réservation pour leur congrès. Ils ont des salles de réunion. Est-ce qu'on peut mettre certains élèves de l'école secondaire à ces endroits-là avec évidemment un support d'une personne pour s'assurer que ils sont capables de suivre entre eux les cours à distance.
Donc, vous les réuniriez, si je comprends bien, dans un endroit pour suivre des cours à distance ou une partie des élèves, exemple. Je sais pas si, mettons qu'on y va avec un exemple. Prenez-moi les élèves de, je sais pas, de secondaire 2. On prend une classe, là, vous la divisez en deux, une moitié qui est à l'école, une moitié qui est dans un autre local à distance. Je comprends-tu bien?
Je vais vous mêler un peu plus. Je vais la diviser en trois. On va faire le groupe A, le groupe B et le groupe C. Le groupe C étant le groupe d'élèves avec soit un handicap ou une difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, communément appelé EHDAA. Le groupe C, pour nous, là, c'est clair, c'est 100% du temps, ils doivent être à l'école en présentiel. Et pour assurer une mixité sociale, ce sont les élèves du groupe A, groupe B, disons-les, on va les appeler pour les fins de la discussion des groupes d'élèves réguliers, qui, eux, vont être en alternance une fois par semaine, ils iront en classe avec le groupe C. Et pendant ce temps-là, l'autre groupe est dans un autre local qu'on pourrait réquisitionner ailleurs pour s'assurer qu'eux, ils continuent de suivre la formation à distance. Mais si on demande encore aux parents d'assurer le rôle de professeur, les parents sont déjà un petit peu à bout de souffle. Alors, à l'automne, on ne sera pas plus avancé tous et chacun.
Intéressant, la suggestion. Je processe ça à mesure que je vous écoute. Mais donc, vous, l'idée là dans le premier modèle qui a été peut-être avancé publiquement, même je pense qu'il va être utilisé dans certains endroits aux États-Unis, l'idée d'une fréquentation en alternance, il y a des spécialistes en éducation qui m'ont dit, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose compte tenu de ce qu'on va peut-être devoir vivre en mesure de distanciation. Il y a un filon qu'on peut exploiter. Et on entend de certains jeunes, puis j'ai pas besoin d'aller loin, j'en ai des jeunes, et qui disent, ben peut-être que finalement, j'ai peut-être plus de facilité à me concentrer à la maison. Enfin, moi, ça m'a un petit peu ébranlant, voulant dire, coudonc, donc une fréquentation alternée, puis là, c'est très, très court comme échantillon, là. J'ai pas de conclusion définitive. Mais j'ai un premier signal qui me dit, oups, peut-être que si mon garçon fréquentait physiquement l'école trois fois dans la semaine puis deux jours à distance, je ne sais pas, mais peut-être qu'il pourrait fonctionner.
Mais moi, j'aimerais ça qu'on réfléchisse de façon différente. De toute évidence, on nous dit que la santé publique ne permettra pas un retour à 100%. Donc, première chose, j'aimerais vraiment entendre les gens de la santé publique qui nous expliquent comment se fait-il qu'ils sont pas capables de rehausser le gouvernement les mesures sanitaires pour prévoir un retour à 100%. travers des choses qu'on nous l'explique. Mais si on nous dit que c'est seulement 50 % qui peuvent retourner à l'école, ben à ce moment-là, pour moi, c'est clair. J'ai parlé avec plusieurs experts, que ce soit par exemple le professeur Arvissès, la professeure Dupéré, Mme Béliveau, Gilles Royer, Colin Bézina, tout ça, c'est toutes des gens de différentes universités partout au Québec.
Oui.
Et que pour eux, c'est clair que si on laisse un enfant à la maison, le risque de décrochage peut être accentué encore plus de façon importante pour ceux qui sont déjà dans les milieux vulnérables. Alors, si on est capable de les sortir dans la mesure du possible, tant mieux, faisons-le. Et pour cela, il faut réfléchir différemment. Ça veut dire qu'on aille demander de l'aide aux étudiants, au baccalauréat en éducation. Puis ils existent, là. Il y en a 18 000 étudiants là, en ce moment dans le réseau d'éducation et adaptation scolaire. Si on prend les troisième année, quatrième année, qui ont déjà des stages qu'ils doivent faire en milieu d'éducation, ça nous donnerait environ 8 000 à 9 000 étudiants qui peuvent, eux, s'occuper de la formation à distance avec les élèves réunis en même groupe. D'autre part, j'entends aussi la pédiatre du CHU à Sherbrooke, Marie-Claude Roy, qui dit une chose importante. Les enfants là ont besoin de socialiser.
Oui.
Alors, on ne socialise pas à la maison. Et lorsque, j'irai encore plus loin, si vous le permettez, mais pour les enfants de première génération d'immigrants, lorsque le parent, et moi, c'était mon cas, là, ma mère ne parlait pas le français, ne savait ni lire ni écrire. Alors, et je viens d'Hochelaga, donc un milieu hyper défavorisé. Alors, imaginez lorsque votre propre mère ne peut pas faire l'accompagnement à la maison, et si en plus vous avez frappé le jackpot comme moi, et c'est-à-dire que votre grande-sœur est déficiente intellectuelle, vous êtes quatre enfants, ben bonne chance pour faire l'école à la maison. Alors moi, c'est lorsqu'on réfléchit à un plan de retour à l'école, ben oui, je pense à ce type de famille, je pense aux familles les plus vulnérables, parce que c'est à eux qu'on doit s'assurer d'avoir un plan d'éducation qui va les faire en sorte qu'on être capable de briser le cercle de la pauvreté. Sinon, oui, effectivement, ces enfants risquent d'être fortement condamnés à un décrochage scolaire et pire, à une génération de COVID-19. Alors, c'est pour ça que je demandais au ministre, là, est-ce qu'on peut entendre les experts, réfléchir différemment et de sortir des enfants de la maison? Et j'ai même pas encore parlé des enfants
quand
des,
on veut,
des
on peut. PJ, là. Quand on veut, on peut. Là. C'est sûr et certain que si on donne le feu vert à des économies, à des entreprises qu'on juge essentielles, puis on leur donne le feu vert, l'éducation, c'est essentiel. Alors, si on se donne les moyens de les rouvrir, les écoles, puis d'intégrer, puis je pense que c'est la volonté du ministre, telle qu'exprimée aujourd'hui, là, d'avoir tout le monde en classe, même dans les cégeps. Donc, de savoir qu'au moins, c'est l'intention de base, ça vous rassure?
L'intention de base me rassure. Par contre, l'absence de plan me préoccupe. Et ça, je vous explique pourquoi. Ça fait maintenant un an et demi que je suis porte-parole en matière d'éducation avec Véronique Yvon et Christine Labrie. Et nous, ça fait quand même quelques projets de loi qu'on a fait avec le ministre. Et ça a été continué, que ce soit dans le projet de loi des maternelles 4 ans, les frais facturés aux parents ou, par exemple, l'abolition des commissions scolaires. L'absence de plan, là, c'était tout le temps la prémisse de départ. C'est qu'on avance comme qu'on pousse. À un moment donné, c'est que ça prend pour de vrai un plan et on ne peut pas aller avec l'improvisation.
Vous êtes en train de me dire que le ministre est un as de l'impro depuis qu'il est en poste?
Ben, je peux vous dire que jusqu'à présent, il ne nous a pas démontré le contraire, qu'effectivement, c'est rendu que c'est le ministère de l'Éducation, on l'appelle le ministère de l'improvisation. Alors, pour moi, c'est inconcevable qu'il y ait minuit moins une et que les parents, là, en ce moment, prenons un exemple, on a des enfants de sixième année que leurs parents ont inscrits pour le secondaire 1. Ils n'ont toujours pas reçu l'accusé de réception, si oui ou non, ils vont pouvoir fréquenter l'école en secondaire 1, en présentiel, ou même juste fréquenter l'école. À un moment donné, il va falloir que le ministre nous donne
Donc, vous me dites que l'école à distance qu'on est supposé avoir proposé aux élèves là, depuis la mi-mars ou deux semaines après qu'il ait déclaré les vacances, c'est un peu le reflet de la manière que le ministère est mené. Il y a un article d'ailleurs qui a attiré mon attention dans le Devoir ce matin sous la plume de Marco Fortier et Jessica Nadeau. Le titre est assez évocateur, la loterie scolaire. Et des parents, je lis le sous-titre, des parfois à bout déplorent les inégalités, la confusion qui règne. Et je le constate moi aussi, là, il y a des profs qui sont très, très proactifs. Mais l'école à distance, c'est quoi? La prof parle 15 minutes, 20 minutes. 25 minutes, puis là, c'est 3 heures, mais c'est comme c'est un propos au début du cours, puis après ça, bon, OK, il peut toujours poser une question, un courriel, etc., mais c'est pas des vrais cours. C'est pas. Honnêtement, si c'était ça, l'école à distance, je comprends pas qu'on n'ait pas été capable de repartir le. Peut-être que je minimise, là, mais le surlendemain, quasiment, là.
Bon, on aurait dû être en mesure, peut-être pas le 13 mars, c'est à avoir un plan parfaitement détaillé.
Un peu,
je peux comprendre. Mais après, plus de. 9 semaines de confinement.
Ouais, c'est ça.
J'imagine que le ministre a eu le temps de réfléchir. Et c'est pas par défaut que nous, on lui a présenté des solutions, là. On lui a présenté plusieurs solutions, que ce soit moi, Mme Yvon, du Parti québécois, Christine Labrie, de Québec solidaire. On a toujours travaillé en collaboration avec lui. Oh, je vous donne un dernier exemple parce que celui-ci est encore plus éloquent. Formation à distance. Parfait. Parlons-en. Avec quel matériel, quel support technologique? Ils ont commandé 15 000 tablettes. Il y a plus d'1 million d'enfants primaires et secondaires. On lui a posé encore la question hier au ministre. Il y a combien d'enfants au Québec qui n'ont pas de support technologique avec Internet haute vitesse?
Est-ce qu'on a la réponse?
On n'a pas la réponse. Et savez-vous quoi? Le ministre ne l'a pas lui-même. Il attend encore après le ministère de l'improvisation, le ministère de l'Éducation. À un moment donné, ça va faire. Il faut qu'on commence à faire des commandes massives. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de revenir. Quand je vous dis la classe hybride, on sait d'avance qu'on n'aura pas assez d'ordinateurs et de tablettes. Alors, si au moins on a un deuxième lieu, l'enfant n'aura pas besoin d'avoir lui-même sa propre tablette. L'endroit devient fixe. Disons que, par exemple, c'est un local.
Je pense qu'il a pris connaissance de ça. Puis c'est pour ça que l'intention qui est manifestée maintenant, là, c'est de dire on veut tout le monde en classe. Parce que je pense qu'il a pris connaissance d'une couple de dossiers qui n'ont pas abouti comme on souhaitait, puis peut-être que les chiffres, ils les ont, puis ils se rendent compte que c'est un peu insurmontable.
Mais il nous a déjà dit d'emblée que la santé publique risquait fortement de tasser le plan de 100% présentiel. Alors moi, je pense avec la prémisse qu'on est peut-être probablement davantage dans le scénario numéro 2, c'est-à-dire à 50%.
Oui.
Et si on veut réussir le scénario numéro 2, il faut se préparer maintenant. C'est immédiatement que le ministre devrait offrir la classe hybride, oui, dans la vraie école, et l'autre dans l'autre lieu, l'autre classe, avec immédiatement là-dedans les ordinateurs qui sont toujours fixes, et les élèves, à ce moment-là, sont en rotation, donc on aura besoin d'acheter moins d'ordinateurs ou moins de tablettes. D'autre part, j'ai demandé au ministre...
En quelques secondes, Mme Risky.
En quelques secondes, les enfants ont besoin de rattraper le retard. Alors, tout l'été, tous les parents qui ont levé la main, qui ont besoin de services d'orthopédagogue, d'orthophoniste, doivent avoir un service continu de professionnel. Et pour les élèves de secondaire 5, je préconise effectivement un camp de perfectionnement avant de rentrer au cégep, de façon volontaire, bien évidemment.
Madame la députée de Saint-Laurent, Madame Risky, merci beaucoup. Bonne fin de soirée.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir. Au plaisir.